fois montré que de fait, si on réfléchit au plan philosophique sur le problème de la personne, on voit bien qu'il y aura toujours cette tension entre le point de vue de la personne du côté éthique et la personne du côté métaphysique. Et je crois que c'est important de comprendre que, de fait, il ne peut pas y avoir un seul regard sur la personne. J'ai dit cette tension entre les deux extrêmes, les deux manières extrêmes de regarder la personne du point de vue philosophie première, et puis éthique, on pourrait dire aussi au point de vue politique, et on pourrait dire aussi du point de vue philosophie de l'art, d'une certaine manière, tout le développement humain implique nécessairement ce noyau central qui est la personne. Alors, au plan philosophique, je crois qu'on doit commencer en premier lieu par essayer de comprendre peut-être qu'est-ce que ça veut dire quand je dis « je suis ». Vous voyez, quand on regarde toute la perspective de la fémologie d'aujourd'hui, je pense surtout à Husserl, je pense aux Imbert, c'est très différent, c'est pas Husserl. Mais je vois bien qu'au fond, on reprend cette vieille intuition de Descartes, cogito ergo. Et tout le problème de l'exister chez Descartes, il est ergo sum. C'est le sum. Je suis. Est-ce que nous ne pouvons pas reprendre ce qu'il y a de juste dans cette intuition? Nous commençons la métaphysique par ceci est. Jugement d'existence. Est-ce qu'il ne faut pas regarder au plan proprement métaphysique? Quelle différence y a-t-il entre ce jugement d'existence, ceci est, et le jugement que nous pouvons porter sur nous-mêmes, je suis? Je crois que ce serait très intéressant de réfléchir philosophiquement, métaphysiquement, sur le « je suis ». Parce que ça nous permet de rejoindre ce qu'il y a d'intéressant, d'authentique dans la pensée fémologique, qui dépend de Descartes, c'est évident, en passant par Hegel et Kant. Mais il y a une parenté, ouais. La fémologie n'existerait pas s'il n'y avait pas un primat de l'idée. C'est le primat de l'idée qui donne sens de tout ce que représente le point de vue de la fémologie. Alors, je crois que ce serait intéressant de réfléchir sur ce point de vue-là, le « je suis », en comprenant la différence qui existe entre le jugement d'existence et cette affirmation. Parce que ça nous permettrait de voir qu'il y a un problème nouveau à partir d'une expérience tout à fait particulière. Parce que dans le « je suis », vous avez une expérience à la fois interne et externe. C'est peut-être cela qui est de très remarquable dans cette simple affirmation. Et pour nous, c'est particulièrement important. Parce que nous voyons que toute la révélation se termine par le « je suis du Christ ». Et le je suis du Christ rejoint le je suis de Dieu, de la révélation, de l'horaire. Et nous met donc devant quelque chose de tout à fait particulier au point de vue de la révélation. Qu'est-ce que ça représente? Et je crois qu'on a, je dirais, une exigence philosophique de réfléchir sur ce qui, de fait, est dans la vie, une partie au moins, certains philosophes modernes, le centre de leur réflexion. Alors réfléchissons un peu sur la différence qui existe entre le jugement d'existence, point de départ, ceci est, et le je suis, pour nous obliger à partir de là, non pas de remonter, de faire une induction, c'est pas ça du tout, il n'y a pas une induction de la personne, mais il y a une sorte de description de la personne, mais une description très spéciale, qui est presque comme une conclusion des propriétés de l'être pour nous. Autrement dit, la propriété de l'être la plus nette pour Aristote, c'est un, c'est l'un. Qui est acolyte de l'être. Est-ce que la personne n'est pas propriété de la manière d'exister de l'être? Et autrement dit, du comment. Le comment de l'être, je crois, pour nous, a comme propriété d'être une personne. Puisque c'est le comment de l'être le plus parfait, c'est pas au sens strict une propriété, c'est le sommet du comment. Donc ça peut être dit comme une propriété, puisque la propriété c'est ce qui permet de connaître, c'est ce qui permet de caractériser un être. Et donc par le point de vue de la personne, je caractérise ce comment de l'être. Et je crois que là on rejoint une des intuitions intéressantes de Heidegger. Vous voyez là, c'est pour essayer, après avoir fait cette longue topique, hein, du moins, après avoir vu quelques aspects de la topique sur la personne, comprendre que le problème de la personne, c'est le problème moderne par excellence. Si la philosophie d'aujourd'hui a un sens, c'est d'être une philosophie autour de la personne. Comme un peu la philosophie ancienne, grecque, dans ses sommets, se tournait autour de l'âme. Philosophie de l'âme, philosophie de la personne. Et là, c'est ça qui est très curieux. C'est que l'âme est créée par Dieu, et la personne, elle est le concours de Dieu et de l'homme. Ça, c'est une chose très curieuse. Parce que vous ne dites pas que Dieu a créé votre personne. Il a créé votre âme. Il a créé votre âme dans votre corps. Et c'est l'union de l'âme et du corps qui est votre personne. Or, votre corps, ce sont vos parents. Donc, ce sont les hommes. Et donc, on peut dire que la personne, c'est le fruit d'une coopération de Dieu et de l'homme. Parce que je crois qu'on n'a jamais montré ça. Et ça me semble très intéressant. Parce que ça explique pas mal de choses. Parce que c'est très net que Dieu est créateur de l'âme. Et alors, les anciens, ayant très fort le sens religieux, regardent avant tout le problème de l'âme, par où je suis dépendant de Dieu. Les modernes, n'ayant plus du tout sens de Dieu, regardent avant tout le point de vue de la personne. Parce que dans la personne, on retrouve plus la dépendance à l'égard des hommes. Tant la personne prise d'un point de vue psychologique, d'un point de vue éthique, que d'un point de vue métaphysique. Là, il y a aussi une réflexion importante à faire. Vous voyez que Dieu est le créateur de l'âme et que la personne humaine relève du concours des hommes et de Dieu. Et vous faites des hommes et de Dieu. Parce que je ne peux pas saisir ce qu'est la personne si je ne vois pas ce que c'est que l'âme spirituelle. Ça, nous verrons. Et ça, je crois, capital. Mais nous pouvons tout de suite au moins dire ça. Ce qui explique comment le « je suis », vous voyez, a une importance très particulière. Quand vous dites « ceci est », vous restez devant l'absolu de l'exister. L'exister à quelque chose qui me dépasse complètement, que je ne peux pas assimiler, qui est en dehors d'assimilation. Quand je dis « je suis », je demeure dans l'immanence de l'exister. Et j'essaie de comprendre ce qui caractérise justement cette situation tout à fait particulière que j'ai par rapport à mon exister. Je peux d'une certaine manière saisir l'exister de l'intérieur. Pas de la même façon que la vie. La vie, je la saisis bien de l'intérieur, mais comme pour le vivant, vivre c'est exister. Vous voyez cette chose curieuse. Je saisis donc mon exister dans une certaine immanence. Et c'est ce qu'il y a de tout à fait caractéristique et tout à fait particulier dans cette affirmation « je suis ». Quand je regarde un autre, son exister, je ne le connais pas. Je l'affirme, mais je ne le connais pas. Au sens très strict, dans ce qu'il a de tout à fait original, je ne le connais pas. C'est peut-être pour ça, vous voyez, que Kant a dit que le noumen était inconnaissable. Parce que de fait, l'exister de l'autre, je l'affirme, c'est évident, en vous voyant, je dis vous existez. Mais votre exister, dans ce qu'il a de tout à fait propre, je le connais analogiquement. C'est parce que j'existe que je dis que vous existez. Tandis que quand je dis « ceci est », je le connais directement, pas analogiquement. Vous voyez cette chose si curieuse, et c'est intéressant à noter, parce que ça fait comprendre qu'il y a un problème métaphysique, nouveau, avec le « je suis ». Et c'est ce problème métaphysique nouveau du « je suis » qu'il faut essayer de cerner. Et par là, remonter jusqu'à la personne. Vous voyez, et ceci, ni Aristote, ni saint Thomas l'ont fait. Est-ce que nous ne sommes pas obligés de le faire après Descartes? Même si quand Descartes dit « cogito ergo sum », c'est pas tout à fait juste. Bien que ce soit juste de dire « je pense », Descartes a pensé quand même, donc « je pense », j'ai le droit de dire que je cogito, je cogite. Et j'ai le droit de dire « cogito », donc j'existe. Quelquefois, c'est la seule manière pour moi de toucher mon exister. C'est pas moi, je suis. Dans un certain état particulier, je dis je cogite, donc j'existe. Je vois, ça peut se faire, ça. Parce que vous ne pouvez pas dire je dors, donc j'existe. Ça, c'est plus difficile, parce que quand vous dormez, tout est un peu à l'état du sommeil. Et donc, vous ne pouvez pas dire j'existe. Tandis que quand vous pensez, vous pouvez dire j'existe. J'aime, donc j'existe. Je mange, donc j'existe. Quand Descartes dit ça, il met en lumière quelque chose de spécial. Alors, je voudrais qu'on puisse un peu le cerner au plan philosophique pour avoir comme un point de départ et pas seulement traiter la personne comme une conclusion. Est-ce que je peux traiter une personne comme une conclusion? La synthèse de tout ce que j'ai dit philosophiquement, elle est produite à la personne. Je peux le faire. En un quart d'heure. Je peux faire ça. C'est très bien. C'est une conclusion. dire que tout l'effort philosophique que j'ai fait jusque maintenant, si vous voulez, on le fera une fois. C'est intéressant. On a un magnifique bonhomme de neige. Et c'est la personne. Et c'est des pièces différentes rapportées, bien collées. Parce que ça se colle bien. Il y a une unité dans la philosophie. Et voir que toute la philosophie, de fait, va se centrer sur la personne. Quand on dit que toute la philosophie cherche l'homme, en réalité, elle cherche la personne. Et donc, toute la philosophie est centrée sur la personne. C'est très bien de dire ça. Il faut le dire. Et on le dira, c'est évident, c'est important. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est peut-être une connaissance de base au plan métaphysique et une connaissance éthique du sommet. Et c'est ça que je voudrais qu'on saisisse. Et là, on verra mieux par là combien la métaphysique et l'éthique sont nécessaires pour connaître parfaitement ce que c'est que la personne. Alors après, une fois qu'on a ça, on peut revenir sur la petite synthèse. C'est pas gênant. Mais si on n'a pas ça, il manque l'étincelle. Alors la synthèse, synthèse de toutes les conclusions, toutes les parties de la philosophie m'aident à comprendre ce que c'est que la personne humaine. C'est très très beau de voir ça. Parce que ça me fait comprendre le sommet de ma pensée. Alors, vous voyez, quand vous dites ceci, réfléchissez un tout petit peu là-dessus. Petite méditation métaphysique. Le ceci est. Je suis. J'ai assez impressionné, moi, là-dessus. Grammaticalement, nous l'avons déjà vu. Et relatif à ceci. Et philosophiquement parlant, c'est l'inverse. Souvenez, c'est ça, c'est le point de départ de la métaphysique. Une fois qu'on a compris ça, on voit que la métaphysique doit exister. Et si on ne comprend pas ça, on ne voit pas que le langage trahit toujours la pensée métaphysique. C'est aussi très intéressant. Il faut comprendre qu'une philosophie du langage est anti-métaphysique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Une philosophie du langage est anti-métaphysique. Alors voyez, ça va très loin. Parce que si vous poussez les choses par rapport au mystère de la parole de Dieu, vous verrez que ce qui est l'analogue à la philosophie de la parole est anti par rapport à la parole de Dieu, dans ce qu'elle a de plus profond. Ça, je crois que c'est très très important de comprendre ça. Vous voyez, c'est de comprendre que de fait, au point de vue grammatical, c'est sûr, au point de vue grammatical, et relatif à ceci, c'est le nom. Grammaticalement, c'est toujours le nom qui l'emporte, parce que c'est l'aspect substantiel. Et le pauvre petit verbe, il vient après. Il est relatif au nom. Ceci est. Métaphysiquement, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le jugement d'existence au plan métaphysique? Qu'est-ce qui m'intéresse? Selon l'intuition de Raïssa, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est que le ceci peut être très divers et est demeure. Ceci, ça peut être la vache, ça peut être l'homme, ça peut être l'arbre, ça peut être le caillou, ça peut être tout ce que vous voulez. Le ceci, panta. Tout ce qui existe, c'est le ceci. Eh bien, il est. Donc, tout l'accent est mis sur elle, métaphysiquement parlant. C'est donc l'ordre inverse de la grammaire. Alors, essayez de conclure. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que la grammaire, c'est quand même la parole de l'homme qui en est le soubassement. Alors, comment se fait-il que la pensée de l'homme, dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental, un ordre inverse de la grammaire qui relève de la parole, qui vient de parole humaine. Alors est-ce que ce n'est pas la finalité de l'esprit et le conditionnement de la raison. Voyez. Intellectus. Ratio. Vous comprenez bien. Ratio au niveau du langage. Le langage, c'est le fruit de la raison. C'est pas le fruit de l'intellectus. Quand mon intellectus est en acte, je me tais. Quand ma ratio s'agite, je parle. Quand quelqu'un parle de trop, dit « Va donc !» Tu raisonnes tout le temps. Tais-toi et pense un peu. L'intelligence est silencieuse. Et la raison bavarde. C'est un fait. On n'a qu'à réfléchir 3 minutes là-dessus, on sait bien. Alors voyez, cette chose curieuse, c'est que le langage, au point de vue grammatical, donne l'ordre du devenir. Et l'intelligence, dans ce qu'il a profond, atteint la finalité. Vous pourriez dire, le premier dans l'ordre de nature, le premier dans l'ordre du devenir, ça reviendra au même, puisque c'est le conditionnement de devenir. Or, la grammaire est dans l'ordre du devenir, c'est le langage. Tandis que l'intelligence, quand elle veut penser, elle est dans l'ordre de la nature et de la finalité. Oui, je donne exprès ça parce que c'est quand même très important de saisir dans ce jugement d'existence tout à fait premier. On retrouve tout. Si on veut penser un tout petit peu, vous retrouvez le premier dans l'ordre de la nature. C'est de saisir, et c'est évident que c'est ça qui finalise. Le ceci est relatif. Tandis que dans l'ordre du devenir, c'est l'inverse. Dans l'ordre du devenir, l'imparfait est antérieur au parfait. Le ceci est imparfait par rapport à elle. Et dans l'ordre du langage, puisque je suis dans l'ordre du devenir, le nom est premier. Il passe tout. C'est l'ordre du conditionnement. Bon. Ça, c'est pour vous rajeunir et revenir au point de départ de la métaphysique. Et on revient tout le temps au point de départ de la métaphysique parce que c'est ça qui est important. La petite erreur là-dessus, la toute petite erreur là-dessus. Empêche. Mais pourquoi, de fait, il y a eu cette occultation du jugement d'existence en scolastique? Le jugement d'existence a disparu en scolastique. Pourquoi? Parce qu'il relève de l'intellectus. Et que la scolastique a développé la ratio et la définition. Alors ça, c'est aussi très intéressant à voir, parce qu'on rend raison de quelque chose qui est un fait. Cherchez bien dans la scolastique thomiste, le jugement d'existence a complètement disparu. On commence par des définitions. C'est les définitions qu'on donne. Mais les définitions, c'est la raison. C'est pas du tout l'intellectus. L'intelligence ne définit rien. Elle connaît. C'est pas la même chose du tout. Elle contemple. Fort interne et fort inversion, c'est toujours un peu les mêmes choses. On trouvera l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. C'est très curieux parce que tout est contenu là-dedans. Moi. Je trouve ça très très intéressant. Comme jugement d'existence, on retrouve tout. Et si il y a erreur entre les deux, il y a la petite erreur, mais c'est sur beaucoup de vous dire est relatif à ceci ou ceci est relatif à aucune espèce importante. C'est identique. Donc ne cherchez pas à distinguer. Eh bien, la toute petite erreur fait tout basculer. Si vous regardez le ceci comme premier et est relatif à ceci, vous n'entrerez jamais dans la pensée métaphysique. Vous resterez dans l'ordre des formes. Vous resterez dans l'ordre des définitions. Mais vous n'entrerez jamais dedans. Ça, il faut le saisir. Alors, vous voyez, comme c'est très subtil, la petite confusion qu'on peut faire entre les deux, parce qu'on ne voit pas assez nettement la différence d'ordre entre les deux, fait que votre métaphysique reste tout le temps confuse. Alors, dans le je suis. Maintenant, essayons de réfléchir là-dessus. Non pas à la manière de Descartes. Puisque pour Descartes, c'est une conclusion. Tu vois, une conclusion, ça vient en second lieu. Et donc, c'est toujours vu à partir du cogito. Alors que je ne veux pas le voir à partir du cogito. Je veux essayer de comprendre, quand j'affirme je suis, qu'est-ce que c'est qui est présent là-dedans. Est-ce que je peux faire, le même ordre que ici? Est-ce que je peux faire ça? Ça n'a l'air de rien, mais c'est capital. Est-ce que vous avez le droit de regarder le jeu comme le ceci? Vous entendez Husserl bondir? Jamais la personne n'est une chose. Hein? C'est assez joli. Si vous ramenez le jeu comme le ceci, vous dites, bon, il y a la même chose. Mais non, le jeu n'est pas le ceci. Vous avez bien conviction. Hein? Quand vous dites je suis, et alors l'autre dit ah, ceci est. Oui. Quand vous dites je suis, il y a autre chose que vous affirmez. Le je apparaît comme distinct du ceci. Tout à fait distinct. Et par le fait même, je dois me poser la question. Quel est le lien entre le « je » et « suis » ? Bien, je crois que là, quand vous dites « je suis », vous devez reconnaître l'identité absolue entre les deux. En premier lieu, vous ne pouvez pas séparer le « je » de l'exister. Vous pouvez pas séparer l'exister que vous saisissez dans je suis du jeu. Il me semble que le jugement je suis a ce caractère tout à fait particulier. Vous voyez, pensez trois jugements d'existence. Il y a trois jugements d'existence, celui-ci. Et puis le dernier. Mettez le dernier. Troisième, puis le second ici. Le dernier, c'est le troisième, c'est quoi? Il est nécessaire qu'il existe un être acte pur. Il est nécessaire qu'il existe un être acte pur. Ça, c'est le troisième jugement d'existence. Vous n'avez pas 36 jugements d'existence. Et donc ici, vous êtes, il est nécessaire. Qu'il existe un être premier. C'est la conclusion des voies d'accès vis-à-vis d'être premier. Vous dites, il existe un être premier. Et vous pouvez ajouter, il est nécessaire qu'il existe un être premier. Parce que vous ne dites pas, Dieu existe. Parce que Dieu existe. Vous ne savez pas ce que c'est que Dieu. Donc vous ne pouvez pas dire, Dieu existe. Troisième jugement d'existence, Dieu existe. Dieu est. Oui, mais celui-là, vous l'ignorez complètement. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que Dieu. Vous avez ceci, je et Dieu.
C'est encore un jugement d'existence?
Oui, un jugement d'existence. C'est le jugement d'existence ultime. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Qu'il existe un être premier. Vous ne pouvez affirmer l'exister d'un être premier que par l'exister. C'est là où quand Sartre dit l'exister est avant l'essence, c'est vrai pour Dieu, pour mon affirmation Dieu existe. C'est vrai, je n'affirme l'exister de Dieu, je ne touche l'exister de Dieu que par l'exister. Ça, c'est très très important, troisième jugement d'existence. Alors, habituellement, selon les voies classiques de l'épreuve de l'essence de Dieu, on met directement jugement d'existence. Mais, sur l'épreuve classique, jugement d'existence et puis Dieu. nécessaire, Dieu existe. C'est pour ça que je mets ça comme ça. Et c'est important pour nous de réfléchir sur ces trois espèces de jugement d'existence. Oui, on y reviendra. Oui, parce que le jeu, comment le saisissez-vous?
Est-ce que c'est le moi psychologique?
Non, c'est pas le moi psychologique, c'est ce que j'ai. On va voir ensuite que le jeu n'est pas le moi. Le moi psychologique, c'est autre chose. Et le jeu, quand je dis « je suis », c'est pas le moi psychologique. Oui. Et ça, Husserl l'a très bien saisi. La phénoménologie l'a très bien saisi. Il y a quelque chose de plus fondamental que le moi psychologique. C'est dans ce sens-là que la psychologie, que la phénoménologie s'attaque toujours à l'aspect psychologique. Et qu'il n'aime pas, vous voyez, le point de vue psychologique, parce que ça confond tout. Et le jeu, quand Husserl dit le jeu n'est pas chose, que le jeu est présent, c'est cette chose extraordinaire qu'il dit, enfin, le vécu, au-delà du vécu, il y a le jeu. C'est quand même très très, il essaie, il tourne autour pour montrer qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est pas le suppos, c'est pas une chose, c'est autre chose que ça. Qu'est-ce que c'est? Il le dit pas, il montre que quelque chose comme ineffable. C'est l'ineffable. On doit pouvoir le préciser quand même. Donc c'est pas le moi psychologique. On peut arriver à le cerner. Les sentiments du moi de Charles Lautier. Donc vous avez six sentiments du moi. Six. Sentiments, c'est ce que dit Charles Lautier, ce qui est intéressant comme perspective du moi. Les sentiments du moi, on a des sentiments du moi. L'autonomie, la sécurité, la valorisation. Et puis, les trois en opposition. Donc vous en avez six. Et je crois qu'en donnant les six, vous avez tous les sentiments du moi. Et vous restez dans l'immanence du moi. Tandis que dans je suis, je ne reste pas dans l'immanence. Et c'est ça qui est très curieux. Et le je suis est entre ceci et l'immanence du moi. C'est entre les deux. Il y a quelque chose d'immanent et quelque chose de transcendant dans l'affirmation je suis. Il faut dire, on doit le faire aujourd'hui, puisqu'on n'a pas le droit de dire oh la phénoménologie, je ne m'intéresse pas. Non, pas du tout la phénoménologie. C'est quand même un aspect de la philosophie qui a existé, qui existe encore, et qui sont de fait les philosophes les plus intéressants d'aujourd'hui. Puisqu'ils n'ont pas encore découvert la métaphysique. Alors, ils sont les plus intéressants. C'est beaucoup plus intéressant que la logique mathématique. Venez, ou le structuralisme, ça va quand même plus loin, ça touche l'homme. Et ce point de vue-là, sont des philosophes de l'homme, c'est quand même respectueux. Parce que le reste, ça va pas très loin. Oui. Quelqu'un comme Lévinas, c'est la phénoménologie, mais c'est intéressant quand même. Même si c'est incompréhensible, c'est quand même intéressant. C'est intéressant dans la mesure même où c'est incompréhensible. C'est intéressant. Il faudra lire une fois une page de Lévinas, bien corsée. Je vous demanderai de trouver la page la plus corsée de Lévinas. Parce que c'est important. C'est important de voir, il tourne autour. Alors, il faut bien préciser l'affirmation « je suis ». Ce n'est pas le « moi » psychologique. Et puis la troisième affirmation, il est nécessaire. Il est nécessaire non pas que Dieu existe, parce que Dieu, je ne le connais pas philosophiquement, mais qu'il existe un être premier, qu'il existe un acte pur. Voilà ce qui est nécessaire. Ce jugement d'existence dernier qui est au terme de toute ma philosophie. Et à partir de là, ma philosophie devient sagesse. À partir de là, ma philosophie devient théologie. Dans la mesure où je peux dire quelque chose de cet être premier. existence qui touche, qui atteint une réalité qui m'échappe complètement. Complètement. Donc c'est l'exister dans toute sa force. C'est l'exister sans limite. C'est l'exister fou le camp. C'est ça que je fais comme mon intelligence atteint. Il est nécessaire qu'il existe. Vous voyez ? Et c'est très beau du reste, parce que logiquement, c'est un jugement modal. Comme on dit en logique, il est nécessaire que... Alors quand je dis un jugement modal, c'est parce que tout l'accent est mis sur la nécessité de l'exister, la nécessité dans laquelle je suis, de reconnaître qu'il existe un être premier. Et cet être premier, on l'appelle Dieu, selon les traditions religieuses. Mais il m'échappe. Est-ce que je l'atteins ? Est-ce que mon intelligence l'atteint ? Vraiment ? Ou ne l'atteint pas ? Elle l'atteint dans la mesure même où je vis de la démonstration a posteriori qui aboutit à cela. Parce que quand je répète, mon intelligence n'atteint rien du tout. Je répète logiquement. Il est nécessaire qu'il existe un être premier, que nous appelons tous Dieu. Votre intelligence ne touche pas l'existence de Dieu. Mais si vous vous mettez à vivre de la démonstration a posteriori de l'existence de l'être premier, votre intelligence atteint l'être premier. Comme dans une démonstration. Mais elle atteint l'existence de l'être premier. Ça, c'est très très délicat. Mais je crois qu'on peut dire qu'elle l'atteint. Parce qu'autrement, elle ne pourrait pas le contempler. Il n'y aurait pas de contemplation. Il n'y aurait. Et je comprends très bien que certains disent non, on ne peut pas, absolument pas. Mais du fait même que l'intelligence conclut, l'intelligence jusqu'au bout touche la conclusion. Et donc, jusqu'au bout, elle touche la conclusion dans l'ordre de l'exister. Et ce n'est que dans l'ordre de l'exister qu'elle le touche. Pas du tout d'une façon quantitative. Donc, réfléchissez bien sur ces trois jugements d'existence. Les deux extrêmes, j'allais dire, c'est facile à comprendre. Facile, hein ? Pas si commode, puisqu'il s'agit de dépasser l'aspect grammatical, donc du devenir, pour saisir l'être en acte, dans son exercice d'acte. C'est pour ça qu'au fond, le jugement d'existence est si peu vécu. Parce que on reste plutôt dans le devenir. Tant que vous restez dans le devenir, pas de jugement d'existence. Vous restez dans l'ordre grammatical, pas de jugement d'existence.
Sixième voie de Maritain.
ressenti quelque chose ou que c'est complètement...
Je crois que Maritain est très intuitif. La difficulté de Maritain, c'est parce qu'il n'y a pas d'analyse chez Maritain. Aucune. Donc, c'est un artiste de la pensée. C'est pas étonnant. C'est Bergson qui l'a éveillé à la pensée. Et Bergson, c'est un artiste de la pensée. Prenez, avant tout. C'est un artiste du vivant, Bergson. C'est beaucoup plus ça. Maritain, avec saint Thomas, découvre au-delà de la vie l'être. Mais je crois qu'il garde cette espèce d'un particulier d'être un artiste d'une pensée métaphysique de l'être. Et donc c'est cette intuition qui l'intéresse. Et cette intuition, c'est là. Comme toujours dans une intuition esthétique. C'est toujours là, il prime. Oui. Et je crois que là, on peut montrer ce qu'il y a d'intéressant dans l'intuition de Raissa et de Maritain. Parce que ça aide à mieux poser le problème. C'est une idée que je trouve dans ces divers exister. C'est une idée d'exister dans ces divers exister. M'oblige de poser, mais qu'est-ce que c'est que l'exister ? Donc la question métaphysique et découvrir que cette unité d'exister sera commandée par le principe propre de ce qui est la substance. Bon, alors je reviens au je suis. Je dis que dans le je suis, il y a une certaine immanence de l'exister. Et c'est à cause de cette immanence de l'exister, je dis qu'il y a identité entre le jeu et l'exister. Je peux beaucoup plus facilement séparer, distinguer le ceci de est que le jeu de soum. Beaucoup plus facilement. Le ceci est plus extrinsèque à « est » que le « je » de « suis ». C'est curieux, ça. Mais je crois qu'on le ressent, ça. C'est « je suis ». Quand je dis « je suis », c'est mon exister. Ah, voilà, voyez. Tout de suite, vous comprenez pourquoi c'est immanent. Parce que, qu'est-ce que c'est « je suis » ? C'est mon exister. Vous avez le droit de parler de votre exister. C'est bien vous qui existez. C'est pas le voisin. Lui, il existe. Et moi, j'existe. Et la preuve, c'est que lui peut mourir. Je ne mourrai pas nécessairement en même temps que lui. Ce qui montre bien que tout en existant avec lui, j'existe indépendamment de lui. Et donc, je parle de mon exister. Et quand je parle du monde exister, qu'est-ce que c'est ce monde exister ? Je ne peux pas séparer exister et moi. Je ne peux pas séparer le je et le je suis. Il y a donc une certaine... Parce que mon exister, vous comprenez bien, c'est vrai et c'est pas entièrement vrai. Parce que en réalité, l'exister qui est le mien, c'est un exister participé. Et s'il est participé, il vient d'un autre, il n'est pas le mien. Et donc, je distinguerai, vous voyez, dans mon exister, quelque chose qui est vrai. Il y a dans l'exister qui est mien, quelque chose qui est mien, et quelque chose qui n'est pas mien, puisque ça n'existait participé. Il n'y a que Dieu qui peut dire mon exister. Il ne le dit pas aussi. Il dit je suis. Mais le je suis, complètement absolu de Dieu, c'est l'exister de Dieu, c'est que Dieu existe par lui-même et en lui-même. Moi, je peux dire que j'existe en moi-même, ça oui. Je ne suis pas extrinsèque à mon exister. Si vous commencez à dire que vous êtes extrinsèque à votre exister, ça va mal. Vous êtes immanent à votre exister. Mais vous ne pouvez pas mettre égal le je égal le suis. c'est juste puisque à côté de moi, il y en a un autre qui existe. Et il peut dire aussi mon existence. Alors à ce moment-là, on commence à se battre métaphysiquement. Parce que tu prétends que tu existes, moi je prétends que j'existe. Lequel de nous deux a plus de droits sur l'exister ? Aucun. Nous sommes dans la même situation par rapport à l'exister. C'est mien, et c'est pas totalement mien, puisqu'il y en a plusieurs. S'il n'y en avait pas plusieurs, mon exister serait unique. Je ne peux pas dire mon exister, c'est l'exister unique. Je ne peux pas dire ça. Mon exister, il est parallèle à l'exister de l'autre. Donc, il y a une immanence et il y a une transcendance. Oh, c'est quand même très curieux. Dans le ceci,